Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous nous sommes intéressés aux migrants sur le territoire français.
Dans un premier temps, nous serons en compagnie de Monsieur et Madame Lefebvre, membres du collectif Fraternité Migrants de Angres, qui s'occupe de réfugiés vietnamiens.
Puis, dans une seconde partie, nous allons écouter donc Clémence, qui est active dans la jungle de Calais. Elle a d'ailleurs organisé une collecte de vêtements au sein du lycée Baudimont d'Arras.
On est impliqué dans le collectif Fraternité Migrants depuis début 2013. On a connu ce collectif et l'existence des migrants vietnamiens à Angres lorsque l'infirmière libérale d'Angres a été mise en examen. Donc ça nous avait interpellé d'abord en tant que soignants, puisqu'on est tous les deux infirmiers et infirmières, qu'une soignante puisse être mise en examen parce qu'elle venait en aide à des personnes nécessiteuses à titre bénévole. Et donc comme on a ici sur Aix une bénévole qui intervient également, on a eu l'occasion de la rencontrer et on lui a fait part de notre souhait d'aider aussi ce collectif et ces migrants. Donc moi j'y suis allé au départ avec ma deuxième fille qui a 26 ans maintenant, qui a fait de l'humanitaire à plusieurs reprises. Ensuite Catherine et Manon, donc dernière nous a rejoint quelques mois après. Plus tard. Et puis notre fille aînée, donc qui a 30 ans cette année, est venue également avec nous donc en été 2013. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on intervient auprès d'eux. Alors au départ c'est un petit peu compliqué dans le sens où on a peur de la barrière de la langue, mais comme ils se débrouillent assez bien pour la plupart en anglais. Enfin, ils parlent aussi mal anglais que nous. On arrive à se comprendre. Voilà. Et puis bon, je pense que la barrière de la langue, quand on fait les choses avec cœur, je veux dire, on la dépasse très, très facilement.
Puis on a les gestes aussi, on a les dessins et on arrive aussi à se faire comprendre.
Alors, on n'a pas tous la même relation avec eux. Nous, on a des relations plus de parents à enfants, puisqu'ils sont pour la plupart assez jeunes, puisque bon, il y en a qui ont à peine 20 ans. Et donc, par contre, avec nos filles, c'est vrai qu'ils ont des relations plus amicales, ils sont plus joueurs, ils arrivent à jouer, à faire des bêtises, comment de se courir l'un après l'autre dans le camp, comme on peut faire entre jeunes, entre ados,
des jeux d'ados. Voilà.
Mais je pense qu'ils arrivent justement à avoir cette relation différente en fonction de nos âges et à retrouver quelque part ce qu'ils n'ont pas, puisque forcément ils ont quitté leurs parents et on sent bien que pour certains, le fait d'être loin de leur famille, c'est quand même quelque chose de dur à supporter, même s'ils ne le montrent pas, parce qu'ils sont toujours très souriants. Ils ont quand même, on sent une carence affective, que ce soit par rapport à leurs parents ou parfois par rapport à leurs enfants, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, ils sont minoritaires, à être plus âgés et donc à avoir laissé des enfants au Vietnam, voire même parfois des enfants en très bas âge.
Et il y a une bénévole, là, Thérèse, qui vient avec ses petits-enfants sur le camp. Et c'est vrai qu'ils sont très... Enfin, quand ils voient les enfants, ils jouent beaucoup avec eux, ils s'occupent d'eux. On voit que c'est aussi un besoin, ça correspond vraiment à un besoin. Et pour avoir déjà discuté avec les copains, parce que c'est comme ça qu'on les appelle sur le camp, ils sont contents justement de cette variété parce qu'on nous rapporte des choses complètement différentes et ça leur permet justement de, quelquefois, de passer des moments de crise, de désarroi, quand ils n'arrivent pas à partir vers l'Angleterre ou quand ils sont arrêtés, ou quand ils ont un coup de cafard, quoi. Donc les plus âgés, on a appelé papa-maman, et après les enfants, les plus jeunes, c'est souvent par leur prénom. Ou alors ils nous donnent un surnom.
Et pourquoi ils viennent en France et qu'est-ce qu'ils cherchent en fait vraiment dans notre pays ?
Alors, ils viennent en France pour partir en Angleterre. Comme ils peuvent travailler en Angleterre en situation irrégulière, leur souhait c'est d'aller en Angleterre pour avoir de l'argent, pour pouvoir envoyer de l'argent au pays et pouvoir sortir un petit peu leur famille de la misère. Ils sont originaires du nord du Vietnam, donc c'est une partie qui est très agricole et très pauvre. Donc eux sont vraiment dans le sud de cette partie-là. Donc c'est la partie qui est près entre la mer et la montagne. Et bon, il y a souvent des inondations, donc les moissons sont souvent détruites et repartent souvent de rien. Et le gouvernement, développe plutôt des grandes villes touristiques et les laisse un petit peu à l'abandon. Donc les jeunes ils en ont marre, quoi, de vivre ça, et ils veulent pas le vivre ce que leurs parents sont en train de vivre, c'est-à-dire travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour des salaires, avoir tout juste le nécessaire pour manger, et encore, quand on en discute avec eux, ils mangent pas d'viande tous les jours, il y a aucun superflu dans leur en tenue, en vêtements, ils ont une tenue pour aller à l'école, ou après quand ils rentrent, ils l'enlèvent, et puis ils se baladent parfois nus, parfois... peu couverts, mais ils n'ont pas vraiment pas grand-chose pour vivre. Quand on quand on va sur le camp, eux, ils sont pas perdus, parce que même si on trouve que le camp est, ça doit être, c'est un mode de vie qui est très difficile, très rude. Ben, eux, c'est ce qu'ils vivent au Vietnam. Hein. Ils dorment par terre, sur des nattes.
Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante. Leurs conditions de vie là-bas sont quand même très, très sommaires par rapport à ce que nous, on connaît. Hein. Alors, c'est vrai que c'est la région la plus étroite du Vietnam. Hein. On dit que c'est le nord, mais c'est vraiment... C'est presque le centre, quoi, quand on regarde sur la carte. Alors c'est vrai qu'on dit que les migrants vietnamiens, c'est de la migration économique. Quand on quitte son pays, qu'on laisse tout derrière soi, c'est qu'on a de bonnes raisons de partir. Même si c'est de la migration économique, on ne peut pas les blâmer. Je veux dire, quand on voit parfois leur situation de détresse, on se dit que s'ils sont partis, c'est qu'ils avaient vraiment rien qui les retenait là-bas. Hein. C'est un peu différent des pays qui sont en guerre, puisque forcément... Aux yeux de l'Europe et de l'État français, ils n'ont pas le même statut en tant que migrants. Il y a plusieurs statuts qui existent parmi les migrants.
Mmh. Et les structures qui sont aménagées donc, dans le camp, elles sont suffisantes ou elles méritent vraiment un petit coup de jeune, entre guillemets ?
Forcément, quand on se voit entre collectifs, ceux qui interviennent sur nos renfontes, Calais, etc., si on compare par rapport à ce qui se passe actuellement à Calais, oui, bien sûr, on pourrait dire qu'elles sont suffisantes, parce que eux, ils ne sont pas sous des bâches en plastique. Hein, ils sont quand même dans une structure en dur. Mais bon, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de... Enfin, il y a un poêle à bois pour l'ensemble de la structure qui ne chauffe pas comme on pourrait le souhaiter. Il n'y a pas d'eau courante. L'eau est fournie par la municipalité. Ils vont chercher l'eau au service technique avec une citerne. Ils n'ont pas d'électricité. Ils ont un groupe électrogène qui leur permet de conserver la viande dans de bonnes conditions dans des congélateurs. Comparé à d'autres camps dans la région, vu le soutien qu'on a de la municipalité d'Ang depuis très, très longtemps, et le nombre qui est quand même relativement, on va dire, raisonnable... Hein, même si on a eu l'été dernier une grosse augmentation de la population sur le camp, on va dire que la structure est pas si mauvaise que ça. Mais je veux dire, c'est pas normal que en 2016 en France il y ait des gens qui vivent dans de telles conditions, que ce soit des étrangers ou des Français. Hein. Bon, il y a aussi des Français qui vivent dans de telles conditions. C'est vrai que c'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Et de l'Europe.
Et en général, ils migrent tout seuls ou ils sont vraiment à plusieurs, en famille ou entre amis ou en compagnons de route ?
Ils ont des compagnons de route, hein. ils sont des copains en route, mais en général, ils sont seuls. Ils viennent pas en famille, contrairement aux migrants politiques qui viennent des pays en guerre ou des réfugiés, où là, ils partent en famille complète. Eux arrivent en général à titre individuel ou... Parfois en couple. On a déjà vu des couples,
rare, couples
sur le camp, mais c'est exceptionnel.
Hein. Quelquefois,
ce sont des couples qui se sont faits sur la route, hein, je pense, ça peut arriver.
Hein. Quelquefois, ça arrive que quelqu'un du couple qui soit déjà arrivé en Angleterre et que l'autre fait le voyage pour les rejoindre.
Donc il y a combien de bénévoles et combien de migrants sur le camp, enfin, même entre collectifs ?
Alors, le nombre de bénévoles dans le collectif, je ne saurais pas le dire précisément. Je dirais 30, 35.
Mais c'est pas tout, on n'est pas
bon, là. Après, on est quand même un groupe, je dirais, d'une petite vingtaine à être très actif. Hein. Après, les migrants, ça varie. Hein. On a connu des époques où ils étaient une dizaine, 15. Par mois, l'année dernière, on a eu presque 200. Hein. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est très difficile à gérer parce que ce serait pour les douches, puisqu'on les conduit aux douches une fois par semaine. Donc, une fois à Angres, une fois à Givenchy, une fois à Grenay, une fois à Aix-Noulette. Et quand il y a un cinquième week-end dans le mois, c'est Méricourt ou Grenay. On a plusieurs villes comme ça qui sont ouvertes et qui nous prêtent... Donc des salles de sport pour qu'ils puissent avoir une douche chaude toutes les semaines. Alors, dans certaines villes, la salle de sport est également mise à disposition. Comme ça, ils peuvent jouer au foot en salle. Et donc, quand ils sont nombreux, c'est très difficile pour nous à gérer parce que forcément, on les transporte avec nos voitures. Donc, quand c'est prêt, on peut faire des allers-retours. Par exemple, quand c'est Aix-Noulette ou Angres, bon, ça nous arrive de faire deux allers-retours avec nos voitures quand on n'est pas suffisamment nombreux, voire trois allers-retours, ça arrive. Hein. Mais quand c'est à Méricourt, par exemple, ou Grenay, c'est pas possible. Si on est cinq bénévoles disponibles ce jour-là, on peut en emmener 20 et on s'arrête à ça. Alors c'est difficile, hein, parce que quand on arrive sur le camp et qu'ils savent que c'est le moment des douches, ils ont tous envie d'y aller. Et c'est aussi compliqué pour nous, humainement, de leur dire, bon, on emmène d'abord, on priorise pour les filles en général, hein, elles sont peu nombreuses, souvent sur le camp. Et après, bon, ben, ce sont les places qui restent. Hein, donc c'est difficile pour nous de dire, ben non, on peut pas faire plus aujourd'hui.
Et quelle est la position du gouvernement ou des mairies, des communes par rapport à ces migrants ?
Ah bah on a des mairies qui sont qui sont très ouvertes et accueillantes. Angres, il y a des maires hospitaliers, hein, donc un groupe de maires hospitaliers dans la région. Et puis après d'autres villes comme Aix-Noulette, Bully-les-Mines aussi, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, puisque la ville de Bully-les-Mines nous met à disposition une salle juillet-août, puisque la salle de Angres n'est pas disponible. Et après on a des villes où ça a été un non catégorique, hein, ça c'est clair. Après bah, la position du gouvernement, vous la connaissez aussi bien que nous, hein, je veux dire, elle est largement médiatisée. Là encore, hein, je pense que les politiques font ce qu'ils peuvent, parce qu'après des partis d'extrême qui vont forcément utiliser, si on en fait trop, pour montrer que la politique est une politique d'ouverture, qu'on laisse tout venir tout le monde, qu'on les accueille, etc. C'est quand même très très compliqué, la situation des migrants. Alors c'est vrai que, bon, nous, on dit toujours que je suis bénévole et pas militant, pas trop militant. Il y en a d'autres qui sont plus militants, donc qui vont plus développer cet aspect-là côté politique. C'est vrai que c'est quand même une situation très complexe, très compliquée pour l'Europe, pour la France. Et qui ne va pas s'améliorer dans les années à venir, puisque dans les années à venir, même si on peut espérer que la paix revienne dans certains pays comme la Syrie, comme la Libye, que les Africains viennent moins nombreux parce que leur politiques sont un peu plus démocratiques, je pense par exemple à l'Érythrée, il va y avoir de toute façon dans les années à venir de la migration climatique, quoi qu'on fasse. On a beau avoir fait une conférence sur le climat, on espère limiter l'augmentation des températures, mais je veux dire, la migration sur ce plan-là va augmenter. Ça, c'est clair.
Mais comment réagit la population, vraiment les gens environnants au camp ou aux communes qu'on a citées auparavant pour les douches par exemple ?
Alors on a des gens qui sont tout à fait solidaires de ce qu'on fait, qui nous soutiennent, parfois participent même financièrement parce qu'ils ne peuvent pas donner de temps. Donc on a aussi beaucoup de dons en vêtements, parfois de la vaisselle, des choses comme ça. Mais on a aussi, je dirais, des gens qui réagissent pas toujours bien. Alors moi je le fais aussi en tant que diacre, hein, puisque en tant qu'homme d'église ça me semble important d'intervenir sur ce camp parce qu'il est situé à quelques kilomètres de chez moi et que si nous, croyants, on ne tend pas la main à nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, qui va le faire. Il m'est arrivé d'avoir des catholiques me dire que ce que je fais c'est bien, mais que ce serait bien aussi d'aider les Français. Ce qui me surprend d'autant plus de la part de personnes qui sont croyants, parce que c'est quelque chose qui est quand même inscrit dans notre évangile, hein, d'aider, d'ouvrir sa porte à l'étranger. Donc ça me surprend d'autant plus, même parfois dans la famille, hein. On n'est pas toujours tous sur la même longueur d'onde, hein, par rapport à ça.
Dans Angle, ils sont bien perçus, on n'a pas trop de retours. On a eu quelques réactions cet été quand ils étaient nombreux.
Très nombreux.
Où là, on les voyait davantage. Et bon, ils faisaient davantage d'aller et venir au supermarché, pour aller au lavomatique pour laver leur linge. Dans les transports, on les voyait plus. Donc là, entre guillemets, ils commençaient à devenir un peu gênants. Et on leur a vite, hein, donné être responsables de certains mots. Hein. Il y en a qui étaient responsables de la tuberculose. Enfin, on a eu des choses qui étaient complètement...
Ce serait quoi le parcours type d'un migrant vietnamien, en fait ? Du Vietnam jusqu'au camp...
Alors, il n'y a pas de parcours type, hein. Je veux dire, en général, ils quittent le pays en avion, légalement, pour aller vers la Russie. Et une fois qu'ils arrivent en Russie, c'est un passage en camion. Et là, ça devient un passage illégal. Donc là, ils sont pris en charge par un réseau et ils contactent. Et puis, ben, ils se mettent en route. Alors, le temps qui passe, pour certains, c'est rapide. Pour d'autres, ben, ils doivent faire des escales entre deux pour commencer à payer le prix de leur voyage. Donc, en général, ils s'arrêtent en Pologne, en Allemagne. Alors, en Allemagne, c'est un petit peu plus facile pour eux parce qu'ils peuvent avoir des papiers. En général, ils ont des papiers pour un an. Il y en a qui arrivent à rester quelquefois deux ans. Et donc là, ils travaillent et puis ils commencent à envoyer de l'argent au pays. Alors là aussi, je veux dire, il y a une réelle hypocrisie au niveau de l'État. C'est qu'au Vietnam, quand ils veulent partir, les banques leur donnent de l'argent, leur font un prêt. Ils leur donnent même de l'argent pour payer leurs frais de route. Enfin, donc ils font le prêt qui englobe tout ça. Et puis, mais ils ne savent pas quand ils vont devoir le rembourser. Et une fois qu'ils sont partis, enfin, les familles les appellent en disant, ben voilà, on a eu, alors ça se fait quelquefois au bout de 6 mois, au bout d'un an, on a eu des pressions de la part des pouvoirs, les pouvoirs politiques, et puis ben, il faut qu'on commence à rembourser. Et s'ils ne peuvent pas rembourser, les terres sont saisies. Donc ils doivent mettre des terres en... Et alors, le problème, ben, c'est qu'ils veulent partir très vite, hein, et... parce qu'ils ben, savent très bien que leur famille est en danger là-bas. Et en danger, et aussi, le peu qu'ils ont, ils risquent de le perdre. Donc s'ils n'ont plus de terres pour cultiver, ben, c'est aussi là, un risque de famine pour, le, pour leur famille. Hein. Ou quand ils ont laissé leurs enfants, leurs parents, quoi. On ne peut pas parler de circuit type. Hein. En général, ils viennent des pays de l'Est, l'Allemagne. D'Allemagne en France, en général, ils viennent en train. Et puis après, ils arrivent à la gare de Lens. Mais à la gare de Lens, le camp d'Angre est connu. Il y a plusieurs chauffeurs de taxi. Quand ils voient des Vietnamiens, ils savent que c'est pour Vietnam City. Ils les déposent au niveau du camp. Et maintenant, le camp est fléché dans le bois. Donc, ils passent par le bois.
Et puis, combien de temps le camp, justement, il est en activité à peu près?
Alors, le camp, il est en activité. Les premiers migrants qui ont été rencontrés dans la forêt, ils ont été rencontrés par des personnes qui faisaient du jogging. Donc c'était en 2007-2008, et là ils étaient ils dormaient dans des sacs poubelles. Donc les personnes qui les avaient rencontrés ont vraiment été très choquées de voir leurs conditions de vie. Donc ils ont très vite fait appel à d'autres bénévoles, et ils ont organisé un premier rassemblement pour leur porter les victuailles nécessaires. Alors, le problème, c'est qu'ils ont été rapidement délogés par la police. Il y a eu des plaintes de la part de certaines personnes, incitées aussi par les forces politiques et les forces de police. Et donc, ils étaient régulièrement déménagés. Donc, ils ont fait plusieurs endroits dans la forêt. Sur Angre, ils ont été au niveau du camp des vaches. Mais là, c'est pareil. Hein. Dès qu'ils faisaient construire une cabane en bois, ou dès que les bénévoles leur apportaient pour améliorer leur quotidien, c'était très vite détruit par la police. Donc la maire d'Angre a proposé un terrain communal. Donc là, actuellement, ils sont... donc là, ça fait depuis 2011. Ils ont investi un local derrière les services techniques. Donc comme c'est un terrain communal, la police ne peut plus venir les déloger comme ça. Donc ça sécurise un petit peu leur passage sur le camp. Il y a un espace qui est goudronné, donc le médecin du monde a amené deux tentes. Donc actuellement, ils sont sur un ancien carreau de fosse où ils ont en disposition une maison avec un entrepôt qui leur sert à faire sécher le linge, à cuisiner, à manger tous ensemble. Et la maison, elle est consacrée pour le dortoir, puis une pièce de vie.
On peut dire qu'il y a une amélioration de l'infrastructure pour les migrants.
Oui, il y a une amélioration, hein, parce qu'on a une mère qui a bien voulu leur tendre la main. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas de sanitaire et ça nous pose de réels problèmes. Il n'y a pas d'eau courante. Il y avait un projet de la maison du migrant, mais bon. Les décisions politiques sont longues et difficiles. Il y avait un projet qui avait un accord favorable sur plusieurs camps. Et puis bon, là, aujourd'hui, avec la nouvelle position de département, ça a été un petit peu relié pour d'autres délais. Donc aujourd'hui, nous, on aimerait bien qu'ils aient au moins un local pour pouvoir se laver, parce qu'actuellement, c'est un peu un baraquement, hein, ils se lavent. Il n'y a pas d'eau chaude, donc ils mettent de l'eau dans des citernes et ils vont chercher de l'eau dans une... dans une grosse citerne pour pouvoir faire leur vaisselle et se laver.
Donc, est-ce que les migrants s'intègrent à la société? Et s'ils arrivent, comment?
Ils sont de passage. Donc, leur but, c'est pas vraiment de s'intégrer dans la société, parce que c'est d'aller le plus vite possible en Angleterre. Par contre, quand ils sont sur le camp, ils sont autonomes pour les courses. Donc, on les conduit faire les courses deux fois par semaine. Quelquefois, ils y vont en taxi. Donc, et là, ils savent très vite, donc on les guide et ils intègrent très vite le fonctionnement français. Alors, c'est vrai qu'ils sont déjà passés par des pays européens. Ils ont vécu pour certains longtemps en Allemagne, donc ils savent comment fonctionnent les pays européens. Mais bon, quelquefois, il y a des dérapages, parce que ben, quand ils vont à la laverie, ça arrive qu'ils ont des petites boutades, hein, qu'ils arrivent à la laverie comme ils sont là, et puis ils se déshabillent, ils restent en slip sur le trottoir pendant que les vêtements se lavent, et les gens ne comprennent pas. Donc tout de suite, ça nous revient aux oreilles.
Donc comment se déroule le quotidien? Ils ont pas de travail, ils vivent de quoi?
Alors quand ils sont sur le camp, ils travaillent pas, parce que bon, leur souci, c'est de voir comment ils vont pouvoir et quand vont pouvoir partir au camion. Donc ils vont sur l'aire d'autoroute pour monter dans les camions, partir vers l'Angleterre. Il n'y a pas de travail au camp, parce qu'en France, ils peuvent pas travailler. Alors comme ils occupent leur journée, ben, je veux dire, le matin en général, ils récupèrent de leur nuit, parce que bon, quand ils ont été sur l'aire d'autoroute pour essayer de partir, ben, il y a des moments où il n'y a pas de camion, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de place, donc ils reviennent quelquefois bredouille. Mais bon, en ayant passé une nuit dehors, ils ont besoin de se réchauffer le matin et dormir un peu. En général, le camp se réveille vers 11h. Donc nous, on, les bénévoles, on sait qu'il ne faut pas aller les déranger avant. À 11h, ils commencent à préparer un peu le repas du midi. Et l'après-midi, bon, ben, il y a davantage de bénévoles qui vont les voir. Bon, en général, les courses, ils les font en début d'après-midi. Ils jouent entre eux, hein, donc ils ont une table de ping-pong, ils peuvent jouer, ils ont des bancs de musculation où ils peuvent faire un peu de sport, parce que pour eux, c'est important d'entretenir leur forme. Après, dans la maison, bah, ils jouent à des jeux de société. Ou bon, quelquefois, c'est aussi, on voit des gens qui se replient et puis qui, bon, un peu de moments de tristesse, de désarroi, parce que bon, c'est vrai, quand ils arrivent là, ils s'attendent pas non plus à vivre dans des conditions comme ça. On avait essayé de leur donner des cours de français et anglais, donc sur des pour qu'ils puissent se débrouiller sur les courses, hein, donc pour trouver les aliments, donc les légumes, la viande, les produits d'hygiène, enfin les produits de première nécessité, pour s'orienter dans la ville. Hein, mais alors là, bon, on veut dire la personne qui faisait ça à Treuil du Travail, actuellement, elle est beaucoup moins disponible. Donc, on a un peu arrêté les cours. Mais ça nous manque parce que c'était un moment privilégié avec eux où on pouvait passer un certain temps sur le camp. S'il y avait des problèmes de santé ou des personnes qui étaient un peu démunies. Il n'y a pas de violence sur le camp parce que ce sont les migrants sont très pacifistes entre eux et très communautaires. Hein. C'est vraiment une habitude de vie là-bas. Et donc, je veux dire, ils se soutiennent beaucoup. Mais bon, quand il y a quelqu'un qui ne va pas, ils savent nous appeler. Et souvent le jeudi, là ils préparent le jeudi après-midi, ils font un repas un peu plus élaboré et une partie des bénévoles vont manger avec eux le jeudi soir. Donc pour eux c'est important parce que les migrants nous rendent ce qu'on leur fait. Hein. Et c'est vraiment un moment d'échange où là, bon, bah, je veux dire, comme on a un peu plus le temps en mangeant avec eux, ils nous parlent un peu de leur pays, de leurs enfants, de ce qu'ils peuvent arriver à nous dire.
Les médias et certains politiques aiment dépeindre le portrait du migrant agressif qui va s'amuser à méchanceté gratuite, à voler. C'est vraiment tout le contraire du migrant en fait. C'est vraiment pas de la manipulation mais un portrait contraire de ce qu'est la réalité.
Alors nous on a eu des échos, c'est vrai qu'il y a des camps où il y a plusieurs ethnies qui vivent ensemble, donc quelquefois la cohabitation peut être plus difficile. Nous, sur le camp d'Angres, c'est exclusivement des migrants vietnamiens. Donc il y a beaucoup de respect, parce que déjà c'est dans leur coutume, hein, et notamment vis-à-vis des personnes plus âgées qu'elles. Et de vol, on n'a jamais eu de vol. Moi, quand je vais sur le camp, je peux laisser traîner mon sac, mon téléphone. Si mon téléphone sonne, ils me l'apportent pour montrer que mon téléphone a sonné, mais ils ne vont jamais essayer de l'utiliser sans me le demander, ou me voler quelque chose dans mon sac, de l'argent. Non. Et même quand on fait une fête avec eux, quelquefois ça nous arrive de fêter un anniversaire ou eux fêtent un anniversaire d'une personne qui est présente sur le camp. S'il y a une personne qui a bu un petit peu plus et qui est ivre, je veux dire, c'est, très vite ils vont la mettre coucher, ils vont s'occuper d'elle et ça se passe très bien. Il n'y a pas de bagarre sur le camp. Et c'est pas. Alors, tout ce qu'on véhicule sur eux, c'est vrai que là c'est faux. Par la police, elle nous dit régulièrement qu'il y aurait des viols avec les filles. Nous, quand on fait les douches, on est soucieuse aussi du bien-être des filles. On les fait passer toujours avant et quand elles vont aux douches, elles n'ont pas de crainte à prendre leur douche. Il y a peut-être des corps où ça se fait, il y a peut-être des parcours ou des étapes dans lesquelles elles sont peut-être maltraitées, mais là, en général, quand on va sur le camp, ils sont respectueux entre eux. Et les filles, elles se laissent pas faire. Donc, quand elles sont pas contentes, elles le disent, ou s'ils les taquinent trop, elles savent les recadrer. Et en général, ça se passe bien.
Hein. Est-ce que les migrants sont satisfaits de leur nouvelle vie, entre guillemets ?
Alors, quand ils sont sur le camp, non, ils sont pas très satisfaits, parce qu'ils arrivent au bout du périple, et puis ils attendent pour partir. Donc là, c'est difficile pour eux, parce que quand ils regardent sur la carte, l'Angleterre n'est pas très loin. Donc, quelquefois, il y en a qui nous disent qu'ils pourraient peut-être partir à la nage. Donc là, on les arrête parce que c'est quand même... faut quand même traverser... il y a manche. Puis, il y a quand même beaucoup de risques pour eux. Donc, on les freine. Bon, après, ils sont en attente, on va dire. En attente de pouvoir continuer. Et pas beaucoup de projets. Pas le projet de rester en France, ça, c'est sûr. Parce que, de toute manière, en France, ils savent qu'ils ne pourront pas travailler sans papier. Donc, non, c'est plutôt en situation d'attente. Alors quand l'attente est trop longue, là effectivement on a des situations où les personnes craquent, hein, parce que y a toute une détresse derrière qui est du cafard, hein, notamment là c'était la fête du tête. Bon, pour eux c'est, au Vietnam c'est une fête très importante, donc on a essayé d'organiser une fête, donc on est venu à la salle des fêtes d'Aix-Noulette. Ils ont eu leur soirée pour eux, on a partagé le repas avec tous les bénévoles, on a invité des personnes, il y a la chorale qui est venue chanter et c'est un moment, c'est leur moment privilégié, donc là c'est vrai que ça les booste et ça les aide à passer le cap difficile de se retrouver séparés des leurs pour fêter une fête qui est importante pour eux. Alors ça, en ce moment, là, le mois de janvier, janvier, février, c'est deux mois difficiles parce que ils craignent d'être arrêtés, d'être en prison pour le tête, partir en Angleterre, ils ont peur de se faire arrêter et pas être avec les leurs pour cette fête-là. Donc on sent qu'il y a janvier, il commençait à avoir des craintes et là, ça se confirme. Là, leur état d'esprit, c'est ça, hein, c'est l'attente pour partir.
C'était un entretien en compagnie de Monsieur et Madame Lefebvre, membre du collectif Fraternité Migrants de Angres.
On retrouve maintenant Clémence qui va nous parler de son expérience dans la jungle de Calais.
Salut Clémence, alors tu es au lycée Baudimont-Saint-Charles en première S2. J'ai appris que tu étais très engagée pour la cause des migrants. Est-ce que tu as été à Calais
Oui, donc je suis allée à Calais avec ma mère. Donc après avoir vu tout ce qui se passait à Calais et toutes les horreurs que les gens subissaient là-bas, on a décidé d'agir et donc d'aller sur place pour voir la réalité des choses. Parce qu'on apprend plein de choses à la radio, dans les médias et sur Facebook. Il y a plein d'idées fausses sur ça. Et en fait, au début, même moi, j'avais peur d'y aller. Et en fait, quand j'y suis allée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Que c'est des gens tout à fait comme nous, comme toi, comme moi, et qui sont super gentils. Alors c'est vrai que... On voit, il y a de la boue par terre, il y a des tentes. Moi, j'étais en pull, ils étaient en tongs. Et depuis que j'ai vu ça, je me dis qu'il faut qu'on fasse des choses pour faire changer les choses.
Donc sur place, est-ce que tu as échangé avec des personnes ?
Oui, justement, j'ai eu le contact d'un Syrien. Donc en fait, il nous a raconté comment il était venu, bon, en anglais. Et c'est vrai que c'était un peu dur parce que même lui... C'est pas vraiment parler anglais, donc il nous a raconté qu'en fait, ça faisait 3 ans qu'il était là, à la jungle de Calais, que tous les jours, il se levait à super tôt, qu'il marchait 4-5 heures dans la journée pour aller jusqu'au port de Calais pour essayer de traverser en Angleterre, mais il me disait que c'était de plus en plus dur parce qu'ils mettent de plus en plus de barbelés. Il y a les policiers qui sont violents avec eux, et après, il revient, il a un repas par jour. Et en fait, c'était super sympa parce qu'on est restés toute l'après-midi ensemble parce qu'en fait, on a traversé la jungle avec une association. Et du coup, il est venu, il nous a parlé, il m'a invité chez lui en Angleterre. Alors qu'il est encore en France, dans la jungle, en train de mourir de froid, et il m'invite pour venir chez lui. Enfin, c'est vrai qu'il était super gentil, ça reste des super expériences.
Et donc, tu as aussi organisé une collecte à ton lycée. Est-ce que tu as eu de bons retours ?
J'étais contente parce que j'ai eu un groupe d'amis qui m'ont soutenue. C'est vrai que j'avais un peu peur d'être toute seule et on était une dizaine et j'étais vraiment contente qu'elle soit motivée. Alors après, on a fait les premières et les terminales. Donc c'est vrai que les premières, ils ont eu un peu de mal avec ce sujet-là. Il y en a beaucoup qui rigolaient et on était déçus parce que c'est vrai que, parce que j'ai foi en l'humanité et en gens, mais quand je les vois rigoler de sujets aussi durs, ça fait mal.
Et donc, est-ce que tu as remarqué certains amalgames sur les réfugiés ?
Justement, ça fait peur parce qu'on voit que les gens, ils répètent ce que disent leurs parents ou ce qu'on voit sur Facebook. Ils étaient là à me dire, de toute façon, ils ne sont pas français, c'est pas à nous de faire quelque chose, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais si vous réagissez comme ça, il n'y aura plus jamais d'entraide, de solidarité et ça fait peur de voir que le monde va là.
Et cette collecte, tu l'as organisée avec quelle association ?
Donc en fait, je voulais le faire avec le Secours catholique, mais j'ai eu du mal à les contacter parce qu'ils sont tous débordés. Alors c'est vrai que ça c'est dommage parce que si vous êtes motivé à faire des choses, c'est vrai que c'est dur de contacter les associations, mais j'ai réussi à avoir le contact d'Ara Solidarité Réfugiés.
Et à l'avenir, est-ce que tu aimerais retenter une action dans le même genre ?
Oui, justement, je suis allée voir un film lundi, Hope, sur les migrants. Et après, il y a eu un débat. Il y avait beaucoup d'associations. Il y en avait de Calais, de Nord-en-Fonte, de Grande-Synthe, de tous les camps. J'ai vu différentes associations et ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y avait des autres personnes motivées. Donc j'espère à l'avenir faire autre chose, comme par exemple les aider à s'intégrer, à avoir une vie sociale. Parce que ces gens, une fois qu'ils ont enfin obtenu le droit de rester, ce que je tiens à dire qu'en fait, ils n'ont pas le droit de quitter la France, mais ils n'ont pas le droit de rester non plus. Donc ce serait bien qu'on leur trouve une solution. Et donc j'aimerais bien les aider à avoir une vie sociale, à sortir entre jeunes, parce que c'est des gens comme nous.
Que penses-tu donc de l'évacuation du sud de la jungle de Calais ?
Ça m'a vraiment fait du mal de voir ça, parce que c'est vrai que les politiques essayent de faire semblant qu'ils ont une solution, sauf qu'ils en ont pas, et je pense que personne ne l'a encore trouvé. Et de vouloir démonter la jungle en disant qu'ils vont virer 1000 personnes alors qu'il y en a 3000, ils ont dit qu'ils allaient faire ça dans le calme. Hier, il y avait plus de 20 camions de CRS, ils ont brûlé des tentes alors qu'il y avait des gens dedans. Soi-disant, ils étaient partis alors que les migrants, ils partiraient pas en laissant des affaires, alors qu'ils ont rien. Et c'est vrai que je trouve ça ignoble de faire ça, parce que déjà, on les laisse pas sortir, on les laisse pas rester, et on leur dit de bouger, sauf qu'ils ont nulle part où aller. Donc on leur dit on les met dans des centres d'accueil, sauf qu'ils ne le font pas, il y a trop de gens et je sais pas du tout comment ça va se finir.
Et tu comptes retourner à Calais bientôt ?
Oui, j'espère, parce que j'aimerais bien faire avec mes amis un reportage sur ce qui se passe à Calais, afin de le passer dans l'amphithéâtre de mon lycée et que les gens le voient, ils voient la réalité. Et peut-être ça va peut-être faire un choc, mais je pense qu'en voyant ça, ça les fera réagir.
C'était un reportage qui avait pour thème les migrants sur le territoire français, réalisé par Loïc, Elisa et Marie dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias à l'école.